I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour Mathilde.
Merci.
Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Que le haut potentiel? Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée?
Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable.
C'est un biais culturel.
Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par...
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous.
Donc, c'est pas toujours clair pour les parents.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Ce qu'ils décrivent, c'est que le contexte éducatif dans lequel ils sont au moment où les violences sexuelles arrivent rend impossible d'envisager d'en parler.
Dans la première partie de cet épisode de parentalité, nous avons reçu Laura, qui nous a parlé de la manière dont elle protège ses enfants des violences sexuelles. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, Johanna Smith nous parle de façon plus détaillée des signes avant-coureurs qui peuvent attirer notre attention, de comment on peut dissuader un agresseur en apprenant à son enfant à se protéger, mais aussi comment, et surtout, en tant que parent ou adulte auprès des enfants, on peut protéger activement les enfants. Bonsoir Johanna Smith.
Bonsoir Mathilde.
Tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute ICV, enseignante et formatrice. Tu es spécialisée dans la clinique et la thérapie du trauma, de l'attachement et de la dissociation. Tu as écrit de nombreux livres, alors pour en citer quelques-uns, Les 1000 premiers jours de vie, La régulation des émotions dans la famille, L'application clinique de l'ICV et ton dernier livre, Protéger son enfant des violences sexuelles. Tous tes livres sont aux éditions Dunod. De ce dernier livre, tu as fait un podcast qui s'appelle « Protéger son enfant des violences sexuelles » qui est accessible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast afin d'informer le plus grand nombre et évidemment de protéger les enfants. Tu as travaillé pendant 15 ans auprès d'agresseurs sexuels, ce qui t'a permis de mieux comprendre comment ils fonctionnent et que les agressions sur les enfants sont jamais soudaines, qu'il y a toujours des prémices, des signes visibles qui peuvent être observés en amont. Et donc l'objectif, c'est vraiment de permettre aux enfants, mais aussi à toutes les personnes qui côtoient des enfants, de repérer ces signes. Si vous souhaitez en savoir davantage, avoir davantage d'informations sur les violences sexuelles, leurs conséquences sur les enfants, les symptômes, les manifestations des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles, sur la conduite à tenir et les soins possibles, je vous invite à écouter l'épisode 37, qui aujourd'hui s'appelle les abus sexuels, mais qui va être renommé les violences sexuelles. Alors, tout d'abord, Johanna, parce que ça me semble peut-être très important de le rappeler, pourquoi il faut protéger et en quoi c'est important, nécessaire de protéger les enfants des violences sexuelles?
Alors, je pense, j'espère que la plupart des gens le savent, en ont conscience aujourd'hui. Et il faut protéger les enfants des violences sexuelles parce que ce sont des violences de l'intime, donc des violences potentiellement très graves. Ce sont aussi souvent des violences qui sont commises généralement dans un lien de confiance. Il n'y a que 15% des violences sexuelles sur mineurs qui sont commises par un inconnu. Donc il y a la dimension sexuelle, mais il y a aussi la dimension d'une grande blessure relationnelle. Un certain nombre de ces violences se répètent, durent sur une longue durée, donc ça représente un stress très important pour l'enfant, avec lequel généralement il se trouve seul. Donc c'est aussi un stress qu'il vit sans pouvoir être soutenu, donc se surajoute à ce qu'il vit des grands moments de solitude et de détresse. Et ce qu'on observe en fait maintenant que ça a été quand même un petit peu mieux étudié, ce sont des conséquences potentiellement assez graves au long cours, que ce soit au niveau de la santé physique. On sait qu'il y a une augmentation des risques de cancer, de fibromyalgie, d'obésité, de toutes sortes de pathologies, que ce soit au niveau psychiatrique, avec plus de dépression, des troubles du comportement alimentaire, des addictions, des troubles anxieux, par exemple, au niveau psychologique, la difficulté à dire non, une mauvaise image de soi ou de son corps... des tentatives de suicide, des automutilations, ça peut quand même prendre des proportions assez graves. Il y a aussi un impact sexuel avec des comportements à risque, de la revictimisation, du manque de désir sexuel aussi. Par exemple, on a 50% de victimes de violences sexuelles en plus chez les travailleurs, travailleuses du sexe. C'est quand même probablement pas un hasard. Il y a un impact psychosocial avec des difficultés scolaires et puis à terme professionnels qui sont plus fréquentes. Une instabilité conjugale et familiale, des maternités plus précoces, enfin... Et il y a une dimension transgénérationnelle, puisqu'on sait qu'il y a une dimension de stress qui peut se transmettre au niveau épigénétique, aussi parce que c'est un défi d'être parent quand on a vécu des violences sexuelles, encore plus évidemment quand c'est au sein de la famille, parce que ça relance, ça réactive tout ça, ça touche au rapport au corps, à l'éducation sexuelle, à bien d'autres choses dont on a besoin pour devenir parent.
Pour pouvoir un peu se représenter combien de personnes, d'enfants, ont été victimes de violences, d'agressions sexuelles, quels seraient pour toi un peu les chiffres clés à retenir ?
Alors, les chiffres clés, actuellement, on est à peu près 13% des femmes adultes actuellement qui ont vécu des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans et à peu près 5,5% des hommes, donc ça représente 5 millions de Français, c'est énorme. Sachant que dans ces évaluations, il y a probablement une sous-estimation, puisqu'on ne compte pas, je vais être un peu désolée d'aborder des sujets un peu tristes, mais on ne compte pas tous les gens qui se sont suicidés ou qui sont morts du fait des maladies. On ne compte pas les SDF non plus dans ces études, et on sait que c'est surreprésenté dans ces populations, certaines populations psychiatriques par exemple. Enfin, finalement, les populations les plus concernées sont généralement pas recensées dans ces études. Et puis, on a tous les gens qui soit souffrent d'amnésie, ne se souviennent pas, soit même un questionnaire leur présentant l'anonymat ne vont pas répondre favorablement, enfin, ne vont pas donner les informations, même s'ils ont été victimes. Donc, c'est pas pour dramatiser, mais généralement, les évaluations qu'on a sont quand même plutôt basses. Et puis, c'est vrai que quand on regarde et qu'on discute un peu autour de nous, on voit à quel point il y a des gens qui peuvent être concernés. C'est quand même effectivement très, très fréquent.
Dans nos cabinets de psy, c'est très, très, très fréquent.
Oui, effectivement, il y a un biais de recrutement, mais c'est sûr que c'est un des motifs de consultation. Ça contribue à du mal-être qui amène à la thérapie.
Et pour être plus clair sur ce de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que les violences sexuelles envers les enfants ?
Alors, on va peut-être prendre déjà la définition légale. Les violences sexuelles en France sont constituées d'un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il y a l'idée qu'avant 15 ans, il n'y a pas de possibilité de consentement. Donc même en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise, un acte sexuel impliquant un mineur de moins de 15 ans ne peut pas être considéré comme consenti. Et entre 15 et 18 ans, il faut qu'il y ait un écart de moins de 5 ans avec un éventuel adulte, par exemple, qui aurait, par exemple, un jeune de 19 ou 20 ans, qui aurait des relations sexuelles avec un ou une ado de 16, ça va encore. Mais s'il y a plus de 5 ans d'écart, on considère que l'écart est trop important et le risque est donc trop grand pour qu'il puisse y avoir un consentement.
Et du coup, Johanna, de quelle manière les parents peuvent-ils protéger leurs enfants des violences sexuelles ? Alors Laura, dans le premier épisode, nous a parlé de différentes choses. En tout cas, qu'elle a mise en place, c'est la question de la protection, d'apprendre à l'enfant que son corps lui appartient.
Alors c'est souvent ce que les parents ont en tête. Heureusement, ils ont un certain nombre de notions. On axe beaucoup la prévention actuellement en France autour de ton corps t'appartient et en gros tu dois dire non. On a encore le vieux mythe du monsieur qui va offrir des bonbons à la sortie de l'école. Non pas pour dire que ça n'existe pas, mais rappelons-le, les violences sexuelles par un inconnu, c'est 15% des violences sexuelles. Donc c'est quand même vraiment pas ce qu'il y a de plus fréquent. Et ce sont généralement des violences sexuelles ponctuelles, là où les violences sexuelles au sein de la famille peuvent durer plusieurs années. Donc là encore, c'est pas pour dire que c'est pas grave et potentiellement traumatisant, mais c'est important de répartir nos énergies et la prévention sur tous les risques possibles et pas juste les focaliser sur l'inconnu qui offrirait des bonbons. Et donc je pense qu'actuellement, ce qui pose problème, c'est qu'on fait quand même beaucoup porter sur les épaules de l'enfant la prévention. C'est-à-dire c'est à l'enfant de dire non, c'est à l'enfant de savoir que son corps lui appartient et de savoir se protéger. Ce qui est un petit peu illusoire parce que l'enfant face à un adulte, surtout dans une société où il y a un peu la culture de la domination de l'adulte sur l'enfant, il va avoir tendance de façon assez automatique à se soumettre.
Même si pour autant, il a intégré que son corps est son corps,
exactement,
qu'il faut dire non.
Voilà.
En effet, il va pas toujours être en capacité ou en possibilité de pouvoir le faire, le mettre en pratique.
Ouais. Alors, maintenant que j'ai bien démoralisé ceux qui nous écoutent, message d'espoir. Ce qui me semble vraiment important, et pour avoir travaillé 15 ans avec des agresseurs sexuels, et aussi avoir travaillé avec des victimes qui ont pu me témoigner, en fait, des occasions ratées, des choses qui auraient pu être perçues, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'informations dont les parents ne disposaient pas pour pouvoir protéger leur enfant et le mettre dans une situation, enfin, ou éviter au maximum qu'il soit dans une situation où il est à dire non. Et c'est ce que décrivait très bien Laura, c'est déjà cette habitude que le corps est respecté, le consentement est respecté. Et donc, le jour où il y a quelque chose qui est un peu limite, qui est tendancieux, qui n'est pas encore de la violence sexuelle, comme l'exemple du bisou par le prof, c'est pas une agression sexuelle aux yeux de la loi. A priori, ce serait pas condamné. Mais ces enfants qui ont l'habitude du respect des limites corporelles et de l'intimité et du consentement vont tiquer. Là où, si depuis toujours, on n'a pas fait respecter ça, ben, l'agresseur va pouvoir utiliser cette zone grise, en fait. Va pouvoir utiliser cette zone où, je vais le dire un peu méchamment, mais l'enfant a l'habitude d'être un peu abusé dans sa vie quotidienne. Enfin, ses limites soient pas tout à fait respectées et parce qu'il faut pas contrarier l'adulte ou contrarier mamie qui a très envie d'un bisou, même si mamie elle pique et puis que j'ai pas tellement envie de lui en faire, bah voilà, j'ai appris qu'il faut que je lui en fasse quand même. C'est ces petites choses-là qui peuvent sembler très anodines, qui, cumulées, répétées, en fait, font faire l'expérience à l'enfant que oui, on lui dit ton corps t'appartient et tu dois dire non, mais en même temps, c'est pas l'expérience qui fait. Ça, c'est à mon sens vraiment problématique. Et surtout, donc il y a cette ambiance favorable dans laquelle on peut élever l'enfant pour que les signes précurseurs lui semblent d'emblée suspects. Et puis, il y a nous, comment est-ce qu'on peut repérer les signes précurseurs? Et ça, c'est en connaissant le mode de fonctionnement des agresseurs, leur mode opératoire notamment, et leur motivation, à mon sens, qu'on est le plus à même d'ouvrir les yeux et de voir des situations qui commencent à déraper, puisque les violences sexuelles à l'encontre des enfants commises avec un mode opératoire de violence physique, c'est 1%. Donc ça veut dire qu'il y a 99% des situations où on n'a pas de violence physique surajoutée. Et donc, ça veut dire que l'agresseur, il a procédé comment, en fait? Il a procédé autrement. Il a procédé avec une stratégie de manipulation, une stratégie d'emprise. Et ça, ça se met pas en place en 2 minutes.
Et c'est là où vont apparaître, justement, les signes précurseurs.
C'est ça. Et je pense que beaucoup de parents peuvent tiquer, peuvent remarquer certaines choses qui les dérangent, qui les incommodent un petit peu, mais sans forcément vraiment pouvoir mettre le sens que ça peut avoir dessus, sans forcément mesurer la gravité potentielle et l'importance de réagir. Ce qui est important, c'est que les parents aient conscience qu'il y a 3 types de motivation derrière les violences sexuelles qui vont amener 3 types d'approches, entre guillemets, ou 3 types de signes précurseurs préoccupants. La première motivation, on va dire que c'est de l'hostilité. On va avoir quelqu'un qui va utiliser la violence sexuelle comme une façon parmi d'autres d'exprimer de l'hostilité, de maltraiter l'enfant. Et donc, généralement, c'est pas par la violence sexuelle qui commence. C'est par des commentaires dénigrants, humiliants, c'est par des insultes, c'est par des comportements de rejet, d'être irritable. Je pense par exemple à Isabelle de Mongeau, qui était une championne de tennis, qui a été victime de violence sexuelle de la part de son entraîneur. Donc, dès l'adolescence, elle s'entraînait au tennis pour devenir la championne qu'elle est devenue. Et typiquement, son entraîneur était extrêmement humiliant. Pourquoi tu bouges pas plus ton gros cul? Enfin, vraiment des choses très insultante, très violente, y compris en public. Bon, bah, ça, typiquement, ça semble aller de soi, mais enfin, ça va mieux en le disant. Il faut réagir à ce genre de choses. Ne pas minimiser que quand des choses comme ça se passent en public, c'est le dessus de l'iceberg potentiellement. C'est-à-dire que si je mets la loupe, qu'est-ce qui se passe quand je suis plus là?
Oui, c'est déjà un signe qu'il y a des barrières de franchise. C'est-à-dire, exactement, si j'ose le dire en public, c'est je sais impunément que je ne vais pas être réprimandée, attaquée.
Exactement.
Et donc, ça amène à potentiellement augmenter le risque.
C'est un test. Alors, ce n'est pas pensé consciemment par l'agresseur, mais ça reste un test. Je peux faire ça et puis personne ne réagit. C'est-à-dire que je suis suffisamment important, on dépend suffisamment de moi pour que bah, je puisse me permettre de dépasser les limites. Et les limites vont, dans ces situations-là, être dépassées généralement progressivement avec ces tests, petit à petit, qui vont aller de plus en plus loin. Donc, on a les moyens de percevoir des choses. Un adulte qui s'irrite parce que notre enfant interrompt la conversation, qui fait des remarques dénigrantes, moqueuses à l'égard de l'enfant. Bon, ces petites choses qui peuvent sembler pas méchantes, anodines, et c'est pas pour autant que c'est effectivement un agresseur sexuel en puissance, ça vaut quand même la peine de se dire, bon, comment je réagis à ça? Est-ce que je réagis ou pas? Ça vaut peut-être la peine de réagir. Et est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai envie de confier mon enfant? 80% des violences sexuelles se passent quand l'adulte est seul avec l'enfant. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai envie de laisser seul avec mon enfant? Bon, peut-être pas. Voilà. Donc, ces choses qui vont faire réagir les parents, mais ils voient pas forcément la portée que ça a de ne rien dire. Ça, ce serait la première motivation, c'est l'hostilité.
Là. Juste pour bien comprendre, Johanna, ces trois motivations là dont tu viens de nous décrire la première, l'hostilité, on va les retrouver chez tous les types d'agresseurs?
On va en retrouver au moins une, quel que soit le type d'agresseur. Parfois, elles se combinent. La deuxième, c'est la domination et le contrôle. Et en l'occurrence, pour répondre à ta question, la domination et le contrôle, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'inceste. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir de l'hostilité aussi ou une dimension sexuelle, qui est la troisième motivation. Dans la domination et le contrôle, là aussi, les signes précurseurs, c'est qu'il y a une tendance à la domination et au contrôle de l'enfant beaucoup plus large, avec quelqu'un qui, de façon totalement gratuite, va vouloir contrôler tous les faits et gestes de l'enfant. Je pense à une patiente, c'est tout bête, hein, mais dont on choisissait les vêtements jusqu'à tard dans sa vie, jusqu'à 10, 11, 12 ans, puis elle s'est un petit peu rebellée à l'adolescence, elle ne pouvait pas choisir ses vêtements le matin, on lui faisait ses lacets, enfin, tout était hyper contrôlé. Je pense à plusieurs patientes aussi qui ont décrit comment, devenant adolescente et voulant prendre un petit peu de liberté, et commencer à se maquiller, à se faire percer les oreilles, à avoir leurs petites affaires, leurs bijoux, leurs propres sous-vêtements, leurs propres sacs à main, etc., ont été insultées, ont été traitées de putes, d'allumeuses, et ont été extrêmement contrôlées dans ces velléités tout à fait normales de devenir une petite jeune fille, et puis de séduire, et puis de sortir, enfin des choses qui sont tout à fait normales dans l'épanouissement, la découverte de ce que c'est que d'être ado. Toutes ces manœuvres sont des façons de contrôler, avec évidemment la tendance à fouiller le courrier, le journal intime, le téléphone.
Oui, en tout cas d'éviter tout espace d'intimité pour l'enfant ou voilà, d'intruser tous ces espaces-là.
Exactement, avec aussi une tendance à ne pas avoir de verrou sur les portes de salle de bain, de toilette, pas tolérer que les portes de chambre soient fermées, ou pas rentrer après avoir toqué, rentrer directement. Enfin, toutes ces petites choses qui s'accumulent pour faire finalement l'expérience à l'enfant puis à l'ado que son corps appartient au père, par exemple, hein, plus souvent dans les situations d'inceste. Tout ça, c'est des façons de dominer, d'intruser, de contrôler la vie de l'autre.
Dans ces motivations-là, chez ces agresseurs-là, est-ce que c'est là aussi on va retrouver la dimension incestuelle dont nous a parlé Laura dans le premier épisode?
On va avoir ça avec d'autres motivations, mais effectivement, l'incestuel, c'est souvent une façon de contrôler. Donc c'est particulièrement souvent présent dans cette dimension de contrôle et de domination.
des familles, comme tu disais, où il n'y a pas de verrou. Je me souviens même d'une patiente qui me racontait qu'il n'y avait pas de porte même aux salles de bain et aux toilettes. Voilà, sont des signes d'alerte majeurs.
Oui, c'est ça. Le fait que le père puisse entrer dans la salle de bain pendant que sa fille est aux toilettes ou sous sa douche. En fait, ce sont des non-respects de l'intimité, qu'elle soit psychologique, avec fouiller le téléphone, le journal intime, etc., qu'elle soit physique, avec toucher le corps de l'autre sans son consentement, le prendre sur les genoux, l'embrasser, etc. Comme si c'était son propre corps, en fait. Et puis, des intrusions plus franchement sexuelles, notamment dans tout ce qui est espace d'intimité, de change, de toilette, etc., dans la maison.
Donc là, tu nous as parlé de l'hostilité dans les motivations, du contrôle et de la domination, et donc la troisième motivation.
Et la troisième motivation, c'est une motivation que j'appellerais pseudo-amoureuse, puisque ce sont des agresseurs qui se disent amoureux, qui font croire souvent aussi à la victime que c'est une relation amoureuse. Donc ça, ça peut brouiller vraiment les cartes pendant très longtemps. La victime peut mettre beaucoup de temps à sortir de cette emprise, hein, et de ce, entre guillemets, lavage de cerveau. Alors qu'en fait, derrière, la motivation est quand même plus franchement sexuelle. Parmi les trois groupes, ce groupe pseudo-amoureux, entre guillemets, sexuel, va être le groupe qui démontre le plus d'attirance sexuelle envers les enfants. Là où, ça peut paraître curieux, mais ceux qui agissent sous le coup de l'hostilité ou de la domination, quand on examine leur attirance sexuelle pour les mineurs, n'ont pas forcément plus d'attirance sexuelle envers les mineurs que des personnes qui n'ont pas fait de ce type de passage à l'acte du tout. Donc ça peut paraître assez surprenant, mais c'est comme si la sexualité était utilisée soit pour détruire dans le cas de l'hostilité, soit pour intruser et contrôler dans le cas de la domination, mais pas vraiment parce qu'il y a une attirance spécifique envers l'enfant. Alors que dans le dernier groupe, on a des gens qui, du coup, vont soit avoir une dangerosité plus élevée, parce qu'il y a vraiment une attirance sexuelle construite envers l'enfant, qui peut être exclusive ou qui peut cohabiter avec une attirance pour l'adulte, mais qui quand même alimente les risques de passage à l'acte et de récidive. Avec toutes ces distorsions, ces termes inappropriés qui vont être utilisés pour faire croire à l'enfant ou à l'ado que c'est une relation qui est consentie, que c'est une relation amoureuse, enfin toutes sortes de choses qui existent hein, parfois aussi dans les autres types de motivations et qui sont particulièrement fréquentes dans ce cas-là.
Comme on en entend parler beaucoup aujourd'hui, est-ce que voilà, dans ces motivations, on va retrouver par exemple ce qu'a pu subir Judith Godrèche, par exemple ?
Alors, je ne sais pas si, à l'époque, Benoît Jacquot a eu ce discours « Je t'aime, c'est une relation amoureuse, c'est spécial qu'on a entre nous, etc. » En fait, je n'ai pas notion d'avoir vu ça passer. Clairement, c'était une relation d'emprise, elle le décrit très très bien. Je soupçonne qu'il y a quand même une dimension de domination, contrôle dans le côté « Je te fabrique de toutes pièces une carrière ». Qu'il a fait de façon
répétée. Oui, tu dépends de moi répétée. Et tu ne seras rien sans moi, en tout cas sous-entendu. Mmh. On parle beaucoup des hommes agresseurs. Qu'est-ce qu'il en est, voilà, des femmes et puis peut-être des mineurs aussi qui agressent. À la fois, dans ces mineurs, on va trouver des filles et des garçons.
Effectivement, à peu près 80, selon les études, hein, 80, entre 95 et 97% des agresseurs sexuels qui sont des hommes. Donc on va dire à peu près 5% qui sont des femmes, des agresseuses donc. On retrouve les mêmes types de motivations, les mêmes trois motivations en fait chez les femmes, avec plus de victimes garçons, notamment dans la motivation entre guillemets pseudo-amoureuse. Là on a quand même beaucoup de femmes qui s'en prennent à des garçons adolescents, pour lesquels ça va souvent être très difficile de réaliser qu'il s'agit de violences sexuelles, parce que socialement, c'est hyper valorisé, notamment avec les potes, de dire « Ah, moi j'ai une relation sexuelle avec une femme adulte qui a 35, 40, 50 ans. » Alors qu'en fait, ces hommes-là, quand on les voit en thérapie, on voit les dégâts que ça a commis, on voit la désorganisation de leur sexualité après ces actes-là, comment ils deviennent complètement envahis au niveau sexuel, par exemple, comment ils reproduisent aussi parfois des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, que ce soit sur eux-mêmes ou sur d'autres. Enfin, on voit clairement qu'il y a un certain nombre de symptômes qui en découlent et que malgré ça, 10, 15, 20, 30 ans après, ils continuent de parler d'initiation sexuelle. Et si on leur demande « Mais est-ce que vous avez été victime d'agression sexuelle dans votre vie ?» ils vont dire « Non ». Alors que clairement, au niveau des conséquences, c'est évident que, qu'ils l'ont été. Ça va mettre parfois un petit peu de temps avant qu'ils en, ils s'en rendent compte. Ça, je pense que ça existe évidemment chez les victimes d'hommes, mais c'est particulièrement fréquent chez les victimes de femmes sous cette forme pseudo-amoureuse parce que c'est quand même socialement valorisé. Ensuite, on a effectivement une donnée qui est souvent méconnue, c'est que entre 30 et 40% des violences sexuelles sont commises par des adolescents. Et c'est vrai que souvent, les parents ne pensent pas au risque qui peut être représenté par des ados. On a aussi des enfants, quand je dis ados, hein, c'est à partir de 13 ans, donc moins de 13 ans, qui vont commettre des actes sexuels agressifs ou intrusifs. Ça existe déjà avant. Dans ce cas-là, ils ne sont pas considérés pénalement responsables et généralement, ce sont des enfants perturbés qui ont besoin d'aide et pour lesquels il faut
souffrance.
Faire quelque chose. C'est vraiment pas un comportement normal. Quand même assez vrai des ados aussi. Moi, je ne parle pas d'adolescents agresseurs sexuels parce que il n'y a pas un taux de récidive aussi élevé que chez l'adulte. L'adolescence, c'est quand même un temps encore où on est assez fluide, on est en construction et où ça peut être un raté, je dirais, de parcours, enfin quelque chose dans le parcours qui est très problématique, qui signe une grande souffrance, mais qui ne va pas forcément se cristalliser comme tel à l'échelle de la vie, heureusement. Et donc, c'est quand même des adolescents qui ont besoin d'aide, qui ont souvent d'autres problèmes de délinquance notamment, d'autres problèmes de violence, des problèmes de drogue, d'alcool, des problèmes d'expression émotionnelle aussi, hein, des problèmes d'éducation sexuelle ou pas d'éducation sexuelle plus exactement. Donc, ils cumulent un peu les difficultés et les violences sexuelles peuvent faire partie des symptômes qu'ils présentent et qui doivent, à mon avis, clairement être interprétés comme... ils ont besoin d'aide, leurs parents ont certainement besoin d'aide, leur famille a besoin d'aide et besoin d'accompagnement pour que la crise de l'adolescence puisse se résoudre d'une façon plus constructive et plus positive. Ces violences commises par les adolescents, ça peut être des violences dans le couple. Il y a 20% des garçons et je crois 5% des filles adolescents et adolescentes qui reconnaissent avoir commis des violences sexuelles dans le cadre de leur couple. Donc c'est quand même assez fréquent. Et ça peut être des violences sexuelles, notamment hors du couple, avec d'autres ados de leur âge, en particulier dans les situations de harcèlement. Et puis ça peut être des violences sexuelles sur des enfants plus jeunes. Là, souvent, dans un contexte de manque d'éducation sexuelle, d'adolescents hyper complexés, qui n'osent pas draguer, entre guillemets, un ou une ado de son âge et qui a ce besoin de domination ou de passer à l'acte parfois des scénarios qu'il a... vu dans le porno, avec une recherche d'éducation sexuelle qui n'existe pas par ailleurs. Donc c'est vraiment pas pour leur trouver des excuses, hein, mais c'est pour comprendre un peu les composantes et comment on peut faire de la prévention. Mais on va avoir des ados qui sont au final très complexés, plutôt dans ce groupe qui s'en prend à des plus jeunes, quoi. Donc ça veut dire, après ce podcast, après cet épisode, les parents qui nous écoutent risquent d'être vraiment parano, c'est normal. Vous risquez de voir le mal partout, donc ça va penser aux cousins, aux grands frères de la copine chez qui ma fille va faire une soirée pyjama. Enfin, c'est tous ces autres ados qu'on connaît pas forcément en plus, avec lesquels notre enfant ou notre ado est en contact. Donc c'est normal d'avoir un petit temps de parano. Heureusement, ça passe. c'est un petit mouvement de pendule, on va dire. Après, ne pas avoir vu un certain nombre de risques pendant un certain temps, c'est normal de tomber un petit peu dans l'autre extrême. Mais petit à petit, ça se calme. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai observé. Et évidemment, au bénéfice d'une meilleure perception du risque. Donc, ça ne veut pas dire que tous les ados sont hyper dangereux pour votre enfant ou votre ado. Mais c'est intéressant d'avoir l'idée en tête pour pouvoir... en parler en particulier avec les ados. On parlait tout à l'heure des comptes et des supports qu'on peut utiliser avec des plus jeunes. Mais alors avec les ados, on a l'embarras du choix parce qu'il y a des tonnes de séries. On parlait aussi de Sex Education. Enfin, il y en a vraiment plein où on voit toutes sortes de modèles de la relation, plus ou moins positifs, certains très positifs, et puis d'autres très problématiques. On peut utiliser Twilight, il y a vraiment plein de films et de séries qui s'y prêtent extrêmement bien pour notamment parler de la violence, de l'emprise, de est-ce que être jaloux, c'est vraiment aimer, Est-ce que c'est une preuve d'amour, des choses comme ça qui peuvent être des croyances qu'ont certains ados qui vont, entre guillemets, favoriser les violences et notamment les violences sexuelles dans le couple.
Tu évoquais la question du porno. Est-ce que la consommation de porno chez les adolescents est un facteur de risque de passage à l'acte d'agression sexuelle?
Oui, tout à fait.
Donc, l'importance d'être vigilant à ces questions-là.
Oui, j'irai même plus loin. Je fais partie de ceux qui préconisent de parler du porno à ses enfants avant que Internet ne s'en charge. Mmh. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, Internet s'en chargera. Mmh. Internet avec les copains, Internet directement, bon, de toutes sortes de façons.
Dans l'épisode qu'on a fait sur la question de la pornographie, Thomas Romer dit 100% des enfants sont confrontés à la pornographie. Donc, en effet, il est essentiel d'en parler avant qu'Internet ne le fasse. Est-ce qu'il faut évoquer la question, justement, des risques et des violences sexuelles aux enfants? Alors, et aux adolescents?
Oui, voilà, personnellement,
j'imagine qu'en fonction de l'âge, ça va être différent. On va dire des choses différentes, mais...
Oui, tout à fait. Je pense qu'assez tôt, on peut expliquer que ce que c'est que la pudeur. On peut aussi, évidemment... C'est d'abord peut-être le faire vivre à la maison, donc avant même de le dire, faire ressentir, expérimenter qu'il y a de l'intimité, qu'il y a des parties du corps qui appartiennent à l'enfant, comme disait Laura dans l'épisode précédent, le fait qu'il a le droit de toucher toutes les parties de son corps, mais qu'il y a des choses qui vont se faire dans l'intimité, pas devant les autres, etc. Donc, ça c'est évidemment... Donc on va commencer par parler des parties intimes. La plupart des programmes de prévention des violences sexuelles recommandent de nommer explicitement toutes les parties du corps, y compris...
Une vulve, c'est une vulve, voilà. Un nez, c'est un nez, et on n'utilise pas d'autres mots.
C'est ça. Et surtout pas des mots ambigus qui veulent dire autre chose, comme minou. C'est embêtant parce que quand on dit « il a touché mon minou », on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Ça peut avoir l'air très très bête comme ça, mais c'est quand même potentiellement problématique. Et donc ça commence par nommer les parties du corps, dire que ce sont des parties qui appartiennent à l'enfant, que ce sont les parties cachées par le maillot de bain, pour faire simple, par exemple. Et puis petit à petit, mais d'une façon générale, on va apprendre qu'on ne touche pas le corps de l'autre n'importe comment, mais en fait on le fait assez intuitivement, même avec un grand bébé qui commence à pouvoir crapahuter, nous grimper dessus et puis qui nous agrippe et qui va agripper justement nos parties intimes ou appuyer dessus. Et donc, on va lui communiquer, non, là, ça fait mal, là, tu touches pas, là, ça m'appartient. Enfin, s'il tire les cheveux, on va le faire avec d'autres parties du corps aussi. Et entre autres, les parties intimes, bien sûr. Donc, c'est les respecter, mais aussi les faire respecter. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un discours à un moment donné. Écoute, mon petit, il faut que je te dise. c'est incarné dans la vie quotidienne, cet endroit-là. Il est sensible, il est personnel, il m'appartient, il t'appartient. Enfin, donc, à la fois sur notre propre corps et sur le corps de l'enfant, de le faire respecter, ça paraît...
Mais j'imagine que quand l'enfant grandit et amené à côtoyer d'autres espaces en dehors de la famille, des espaces associatifs, du sport, différentes activités, que peut-être là, il y a des choses à dire.
Bien sûr. Donc, que ce soit la soirée pyjama, la classe verte, le scoutisme, enfin, toutes sortes de moments où il va y avoir peut-être un peu plus d'intimité, la sortie piscine. Donc, il y a des moments d'habillage, déshabillage, où il y a des moments de sommeil, des moments où il y a effectivement un accroissement de l'intimité et des moments comme ça potentiellement à risque. Personnellement, j'ai retenu le fait que dans les programmes de prévention des violences sexuelles, ceux qui marchent le mieux sont ceux où il y a un entraînement et ceux qui impliquent les parents. Alors ça, on n'en est pas encore là en France, ce serait vraiment bien. Mais je le dis quand même en passant. Et donc l'entraînement, ça veut dire concrètement, si dans ta classe de mère, le soir, donc on a un enfant de 4 ans, on va prendre vraiment un tout petit. Le soir, dans le dortoir, il y a un autre enfant qui vient t'embêter. Et on va pas focaliser que sur les violences sexuelles. C'est un enfant qui vient le chatouiller, qui vient le taquiner, qui vient lui piquer son doudou, qui vient grimper dans son lit. Enfin, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas que les violences sexuelles dans la vie. Rassurez-vous, il y a plein d'autres dangers. Maintenant, j'ai bien cassé l'ambiance. Donc concrètement, ce qui est vraiment, mais c'est vraiment, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, c'est que il faut pas se focaliser sur les violences sexuelles, et ça aide considérablement à protéger son enfant de toutes sortes de risques, en fait.
Oui, évidemment, de l'ensemble des violences.
Voilà, et du rapport au corps. Donc concrètement, comment on peut entraîner son enfant ? Bah, tu vas partir en classe de mère. Le soir, si quelqu'un vient t'embêter dans ton lit ou à n'importe quel moment, hein, je prends le soir, c'est un exemple parmi d'autres, qu'est-ce que tu dis ? Arrête de m'embêter ou j'appelle un adulte. Ok, et faire répéter ça à l'enfant. C'est comme les premiers secours. En cas d'urgence, on est beaucoup mieux équipé, on a un circuit neuronal beaucoup plus rodé si on s'est entraîné. Parce qu'on perd un peu ses moyens, on est stressé, on ne sait plus. Donc, il ne faut pas apprendre 150 phrases à l'enfant. Arrête de m'embêter ou je vais voir un adulte. Ou arrête de m'embêter ou j'appelle un adulte. Peu importe ce qui vous convient. Et puis, là aussi, on ne va pas surstresser l'enfant et le focaliser sur les risques alors que lui, il se réjouit d'aller en classe de mère. On ne va pas le saouler avec ça. Mais de le faire de temps en temps, de l'avoir fait de façon répétée. Et évidemment, tenant compte du consentement de l'enfant à cette activité. Si à un moment donné, il nous fait clairement sentir que bah non, en fait, ça le saoule, il en a marre qu'on lui parle tout le temps de ça, il faut le respecter. Puis petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, là, effectivement, on va être un petit peu plus explicite sur les risques, sur le fait qu'il y a parfois des adultes qui ne sont pas tout à fait bien intentionnés ou pas tout à fait au clair. Et que ça peut arriver, ça reste l'exception, ça peut arriver qu'un adulte essaye de toucher un enfant de façon inappropriée, que ce soit des coups, que ce soit au niveau sexuel. Et voilà, que c'est important d'une part de le savoir, d'autre part de pas être complètement terrifié par ça, mais en même temps de savoir que c'est pas normal, que c'est pas autorisé, et que dans la mesure du possible, ça je trouve que c'est hyper important de le préciser, dans la mesure du possible, qu'ils s'en aillent, qu'ils disent non s'ils y arrivent, qu'ils aillent le dire tout de suite à un adulte, et qu'ils nous le disent à nous dès que possible, même si c'est pas toujours possible. Donc, faut pas trop leur mettre la pression. Ah, faut dire non si ça t'arrive. Après, l'enfant, il se sent encore plus coupable de pouvoir punir non. Enfin, l'idée, c'est pas de le verrouiller dans une situation où on a aggravé les choses, quoi.
Bien sûr. C'est au contraire d'ouvrir et qu'il peut en parler à son parent ou à un autre adulte de confiance. Parce que parfois aussi, le fait de le dire aux parents, c'est pas toujours simple.
Ben, puis si on est en colo, les parents, ils sont pas là, en fait.
Mmh, hein,
donc,
tout à fait.
Ça, c'est quand même un vrai problème. Mmh. Et ça peut être justement, quand tu pars en colo, c'est qui la personne de confiance? Aussi.
Ouais, d'aider l'enfant à identifier les personnes.
Ou ça
de
peut
confiance.
Être quand on. Si tu te perds, mais là aussi, c'est une question de sécurité plus générale. Si tu te perds dans le centre commercial où on est là en ce moment, c'est-à-dire en situation, là, si tu te perds, que tu n'es plus avec moi, où tu vas, vers qui tu vas. Si quelqu'un t'embête dans la rue, rentre dans un magasin. Mais c'est dans la vie quotidienne, ce n'est pas juste théorique, c'est l'entraînement. Et là aussi, sans être forcené et en parler dès qu'on sort, parce que si je ne suis pas de surstresser l'enfant. Mais je pense qu'une fois que nous, on l'a intégré, qu'on l'a en tête, les occasions, on les voit, les séries où on peut en parler, on les voit. Et évidemment, quand on a un enfant qui aborde l'adolescence, on va aborder les choses de façon un petit peu plus explicite. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de parler de l'emprise aussi, de la manipulation, des différentes composantes de l'emprise. Hein. C'est intruser l'autre, pas respecter ses limites, c'est de le rendre dépendant, c'est le manipuler en distordant un peu les choses de façon, comment dire, lavage de cerveau, en fait. Typiquement, on dira, mais si tu ne me montres pas le contenu de ton téléphone, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment, ou si tu ne m'envoies pas une photo de toi nu, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Donc, tout ça, c'est de la manipulation. Donc, d'avoir nommé ces processus-là, ça aide considérablement à les repérer, en fait. Là, une fois que l'enfant il commence à devenir ado et à avoir potentiellement des relations amoureuses aussi, et c'est important de le sensibiliser à ces aspects-là. Puis on peut avoir des discussions très intéressantes à cet âge-là là-dessus.
Oui, oui, toutes ces sensibilisations, elles amènent l'enfant aussi à identifier ce qui est approprié de ce qui ne l'est pas, à identifier des lieux sécures de ceux qui ne le sont pas. Et du coup, voilà, à pouvoir, comme tu dis, développer en situation de bons réflexes. Mais en effet, pour ça, il faut le répéter, le jouer, s'entraîner d'une certaine manière. Au vu des statistiques, on connaît tous des agresseurs sexuels. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit pas, qu'ils sont invisibles à nos yeux ?
Très bonne question. D'une part, parce que alors c'est quand même quelque chose qui est très honteux. Quand il y a un agresseur sexuel dans une famille, ça a tendance à être un tabou. Même quand ça se sait, on n'en parle pas. J'ai beaucoup de patients qui ont donc des patients agresseurs qui ne l'ont pas dit à leur famille. Donc il y a un certain nombre de familles qui ne sont pas au courant. Alors là aussi, je vais encore stresser notre auditoire, qui n'ont pas eu de peine de prison ou voilà, qui ont eu une garde à vue qui était courte, donc c'est passé relativement inaperçu. ou bien qui ont reconstruit leur vie après un passage en prison, donc avec une nouvelle famille, avec des nouveaux amis, une nouvelle vie professionnelle, enfin, ça arrive quand même. Et puis même quand les familles sont au courant, généralement c'est un tabou au sein de la famille, c'est un on dit, c'est des patients comme ça qui ont appris, ah ben en fait mon grand-père a fait ceci, mon oncle a fait cela, par des rumeurs familiales. Donc c'est déjà un tabou au sein de la famille, comme si toute la famille était coupable et honteuse des faits. C'est quand même assez curieux, parce que a priori c'est l'agresseur qui est coupable, c'est pas ni l'entourage ni la victime.
Oui, comme s'il y avait une forme de contagion là de la honte.
Complètement. Et puis, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la plupart des agresseurs nient parfois tout, parfois de façon très agressive. Non, c'est elle qui ment parce qu'elle veut se venger de ceci, cela. C'est ce que j'appelle agressif, c'est-à-dire avec toute une théorie échafaudée qui contre-attaque. Le plus souvent, ça c'est fréquent dans l'inceste hein, quand même, et les dimensions de contrôle. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'hommes célèbres qui ont été accusés et qui nient de cette façon-là. Et puis, il y a ceux qui nient simplement, qui font profil bas, qui se cachent, qui ne répondent pas, notamment dans les médias, hein, par exemple. On n'a pas vraiment de modèle actuellement, socialement, de ce qu'on attend. Moi, je rêverais d'avoir quelqu'un... je rêverais qu'il n'y ait plus d'agresseur, mais quitte à ce qu'il y ait un agresseur qui soit dévoilé, qui puisse reconnaître les faits, dire, bah oui, ça, je pense, ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de victimes. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je suis désolée, je sais qu'être désolée, c'est trop faible par rapport au tort que j'ai commis. Je ne sais pas comment je vais pouvoir réparer ça. C'est-à-dire quelqu'un qui prend vraiment la mesure et qui peut en dire quelque chose et qui dit « je m'engage à travailler dessus, je m'engage à ce que dans ma vie maintenant, à travailler, à trouver comment je peux réparer ça, que ce soit vis-à-vis de la victime elle-même ou... d'une façon plus générale, en fait, plus indirecte vis-à-vis d'autres personnes, d'autres victimes. Ou,
bon, comment la société, de manière plus
voilà, large. Exactement. Mmh. Et je pense qu'on n'a vraiment pas beaucoup de réponses en ce sens. Et que ça, ça permettrait qu'on les voit davantage. Ça permettrait aussi que la réintégration sociale, la réinsertion soit plus acceptable. Avec des proches qui, au lieu de faire l'autruche, soient des vrais soutiens en termes de prévention de la récidive. Au Canada, où j'ai fait une partie de ma formation, les proches, on appelle des ressources. Les ressources, c'est les gens sur lesquels la personne va pouvoir s'appuyer quand elle sort de prison, notamment bah, pour se réinsérer et ne pas récidiver. Parce que actuellement, on est dans l'idéal de, bah, de on veut pas les voir, on veut pas les entendre, et ça se comprend, honnêtement, surtout s'ils nient et qu'ils contre-attaquent. Mais en fait, il y en a tellement que c'est pas réaliste de les ostraciser et généralement ça ne fait qu'aggraver les choses. Alors je dis pas qu'il faut les féliciter et leur taper dans le dos, hein. C'est pas du tout ça. Mais je crois qu'on manque d'un modèle de comment on peut faire en sorte de soutenir leurs proches pour que ceux qui choisissent de rester proches, parce que c'est leur choix, ils peuvent aussi partir, c'est pas obligé, ils sont pas obligés de rester proches, mais s'ils choisissent de rester proches, comment ils peuvent contribuer à la prévention de la récidive, être là, être vigilant, sans porter la responsabilité non plus, mais être quelqu'un vers lequel l'agresseur peut se tourner en cas de besoin pour être soutenu, par exemple. Sans que cette personne ne porte le chapeau non plus.
Bien sûr.
Et ça, on en manque de modèles de ce point de vue-là. Et je pense que les proches sont aussi des personnes qui ont besoin de soutien. Ça doit être probablement extrêmement éprouvant de découvrir que son conjoint ou son fils ou même sa fille enfin, a commis des violences sexuelles. Comment on vit avec ça?
Ça évoque évidemment plein de situations qu'on a pu entendre. En effet, là, je pense notamment quand c'est au sein du couple, la difficulté que ça peut être aussi là de voir, de se confronter à cette réalité-là. Et en effet, que ça peut être très violent pour une femme, voilà, de prendre conscience et en même temps la nécessité de pouvoir protéger les enfants.
Et malheureusement, on a quand même un certain nombre de situations où l'épouse du père incestueux prend le parti de son conjoint. Mmh. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique à tout point de vue.
Bien sûr. Là, quand tu parlais de la part des agresseurs, je pensais à une patiente qui a eu la chance, je ne sais pas si c'est le juste mot, mais bon, en tout cas, son agresseur a pu reconnaître, a pu s'excuser. Et ça a été quelque chose vraiment de très important pour elle et qui l'a énormément aidée à avancer, à cheminer. Ça ne se passe pas toujours comme ça.
Ouais, c'est suffisamment rare pour être signalé, effectivement. Ouais.
Pour conclure, Johanna, tu nous as déjà parlé de certains facteurs de protection que les parents peuvent garder après tout notre échange.
Alors, message d'espoir, les parents peuvent faire, de mon point de vue, énormément de choses. Et énormément de choses, vraiment dans des choses toutes simples du quotidien, répétées. C'est parce que l'enfant, et Laura l'a bien décrit dans l'épisode précédent, parce que l'enfant a l'habitude d'être traité d'une certaine manière, qu'il va avoir le plus de probabilité de réagir quand il y a quelque chose qui commence à déraper et de nous le signaler. Élever un enfant de manière à ce qu'il sache dire non, à ce qu'il ait l'habitude que son consentement soit pris en compte, que quand il dit non, ce soit dans la mesure du possible respecté. Je dis dans la mesure du possible parce qu'il y a des circonstances où la sécurité l'emporte, bien sûr. C'est une éducation qui aide à développer l'esprit critique, qui aide à se rendre compte que ben, les adultes, ils n'ont pas toujours raison, que des fois, ils se plantent et que c'est pas un drame, qu'on reste crédible malgré ça. C'est une éducation basée sur la coopération. Sur l'écoute, j'ai l'habitude d'être écoutée, donc le jour où ça va pas bien, je vais me tourner vers mes parents. Quand on regarde les témoignages de victimes de violences sexuelles qui écrivent ce qu'elles ont vécu, que ce soit Arnaud Gallet dans J'étais un enfant, que ce soit Vanessa Springora dans Le consentement, Isabelle de Mongeau dans son livre Service volé,
Andréa Bescon.
Voilà, Andréa Bescon, que ce soit aussi Adélaïde Bon. Ce qu'ils décrivent, c'est que le contexte éducatif dans lequel ils sont au moment où les violences sexuelles arrivent rend impossible d'envisager d'en parler à leurs parents. Et je dis pas que c'est facile d'en parler, même dans un contexte beaucoup plus favorable. Mais on va faire notre maximum en tant que parents pour que ce soit violence sexuelle ou autre chose, si l'enfant rencontre de l'adversité, rencontre des épreuves, qu'au moins il puisse ne pas les traverser seul, qu'il puisse se tourner vers les parents, les adultes de confiance pour être épaulé dans ces épreuves-là. Et ça fait une différence énorme entre mes patients qui ont été écoutés, soutenus, crus, et ceux qui n'ont pas pu dire ou qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont pas été crus. L'évolution est quand même radicalement différente. Donc c'est un facteur de protection énorme de cette éducation basée sur l'écoute, la prise en compte des émotions de l'enfant, la coopération. Et le monitoring, c'est-à-dire d'évaluer, de faire des essais-erreurs, de négocier ensemble comment, petit à petit, on donne de l'autonomie à l'enfant, puis surtout à l'ado, plutôt que de contrôler, c'est-à-dire d'imposer, bah non, tu sors jusqu'à telle heure, point. T'as pas droit à ton téléphone à telle heure, point. Comment on construit, en fait, pour petit à petit rendre l'enfant et l'ado plus autonomes. Ce qui joue aussi, vous l'aurez compris, c'est le fait d'avoir bénéficié d'une éducation sexuelle. L'absence d'éducation sexuelle est très dommageable. Et ça, vraiment, il y a beaucoup d'études qui le mettent en évidence, que ce soit dans les risques de devenir victime, mais aussi dans les risques de devenir agresseur. Ça, c'est quand même important à avoir en tête. Alors, je sais que ça fait certainement pas sauter de joie les parents, il y en a beaucoup de parents qui nous écoutent, parce que l'idée de faire l'éducation sexuelle de son enfant, ça rend beaucoup de parents mal à l'aise. Ça vaut la peine d'en parler avec d'autres parents, avec son conjoint, sa conjointe s'il y a, avec des professionnels, enfin de s'épauler, de s'équiper, de s'entraider pour résoudre ce problème-là qui nécessite d'être résolu de soi-même. Je pense que beaucoup de parents sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu d'éducation sexuelle. Donc soi-même, trouver des ressources pour avoir une éducation sexuelle. Parce qu'effectivement, parler de sexualité sans avoir reçu d'éducation sexuelle, en gros, assez rapidement, ça revient à parler de sa propre expérience sexuelle. Et ça, c'est pas OK. Et ils ont raison, ces parents-là, de ne pas vouloir parler de ça avec leur enfant. Donc, ne pas hésiter aujourd'hui avec Internet, les librairies, les ressources. Il y a vraiment
beaucoup de ressources aujourd'hui.
De ressources sur la sexualité, sur tous ces aspects. Pas juste l'éducation sexuelle, c'est pas juste comment on fait les bébés. C'est surtout, en fait, de la relation, de la communication, le consentement. Il y a la petite vidéo très, très rigolote sur le consentement en comparaison avec la tasse de thé. Enfin, il y a vraiment plein de supports. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller puiser dans tout ça. Et puis, le modèle positif de couple qu'on va fournir à nos enfants semble avoir une influence aussi très importante. Donc, s'il y a des difficultés dans le couple, s'il y a de la violence dans le couple, s'il y a du manque de communication dans le couple, ayez en tête que ça peut quand même avoir une influence négative et que ça vaut peut-être la peine, si ce n'est pas pour vous, en tout cas pour vos enfants, de vous en occuper.
Merci beaucoup Johanna pour toutes ces pistes et toutes ces ressources. Je recommande souvent des lectures à mes patients, comme tu le sais. Alors en plus de la vidéo de la tasse de thé sur le consentement, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander ?
Alors moi aussi, je suis assez fan des ouvrages d'Andréa Bescon, avec le fait qu'il y a différents modèles en fonction de l'âge. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il y a aussi l'ouvrage de Claude Ponty qui a été édité avec l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, qui s'appelle « Quand on te fait du mal » et qui est téléchargeable gratuitement sur le site de l'association. Et c'est quand même Claude Ponty.
Donc, il est super.
Voilà, il est vraiment, vraiment très, très chouette, très délicat. Façon Claude Ponty, les choses sont exprimées de façon assez imagée, mais en même temps, ça reste délicat. Ça élargit à quand on te fait du mal de façon générale, tout en étant suffisamment explicite sans être traumatisant. Vraiment, je trouve qu'il est...
dans très un dosage
bien, exactement, très bien dosé, c'est exactement ce que j'allais dire. Et on peut aussi écrire à l'association pour en obtenir des versions papier. Et je pense notamment aux écoles ou à d'autres institutions qui peuvent avoir tout à fait intérêt à en avoir dans les classes, par exemple. Vraiment, ne vous privez pas, c'est une très très bonne ressource, je trouve.
Et puis évidemment, on recommande ton livre, « Protéger son enfant des violences sexuelles » et ton podcast qui porte le même nom qu'on retrouve sur toutes les plateformes en accès libre, gratuit. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus finalement sur tout ce que tu nous as évoqué, tu détailles davantage voilà, dans le podcast et tu donnes aussi d'autres pistes. Et dans ton livre, comme le disait Laura dans le premier épisode, il y a aussi beaucoup de situations pratiques, très concrètes, qui donnent aussi des pistes de réflexion, des mises en situation avec les enfants, comment réfléchir aussi de manière très concrète à toutes ces questions avec eux.
C'est ça, l'idée c'était que nous aussi, on fasse de la mise en pratique, on expérimente. Et puis j'aimerais terminer avec quelque chose qui me semble très important. Souvenez-vous que la plupart des adultes, des ados, des gens qui nous entourent sont bienveillants à l'égard des enfants. Ça peut nous rendre un petit peu parano de travailler sur tout ça, écouter ce podcast ou le mien ou lire le livre. Il faut garder en tête que c'est une phase de transition et que la plupart des gens sont quand même bienveillants, bien intentionnés à l'égard de nos enfants.
Merci beaucoup, Johanna Smith. Je rappelle que tu es psychologue clinicienne, enseignante, formatrice, autrice. Merci pour tous tes apports, tes conseils et tes pistes de réflexion. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture !